les privilèges de ce rassemblement ce soir. Car je sais que ce sont de bonnes choses que tu as mises en réserve pour nous. Tu les as préparées d'avance pour ce jour. Et nous t'en remercions. Oh, pour ta sollicitude, pour l'attention que tu nous portes. Oh, le psalmiste se posait la question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Devant ta majesté, nous nous sentons si petits. Et nous te remercions. Nous avons chanté la joie, nous avons chanté l'amour, nous avons chanté la vie. Toutes ces choses que toi seul peux donner. Aussi, tu sais que nous en avons besoin dans ce monde difficile, où les choses sont difficiles, mais nous avons cette glorieuse promesse qui nous dit que nous n'avons rien à craindre, Jésus-Christ a vaincu le monde. Et cette victoire, elle est pour nous ce soir. Et nous te remercions. Nous sommes venus nous rassembler autour de ta parole. Nous t'avons prié, nous t'avons exposé nos problèmes, nous avons répandu nos âmes. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué, nous t'avons exalté. Maintenant, nous voulons écouter ta parole, que tu veuilles bien nous parler, nous instruire, que nous sachions, ô Dieu, comment nous préparer pour ce grand rendez-vous qui nous a été fixé. Pour nos péchés qui sont nombreux, nous comptons sur ta grâce pour avancer à chaque pas. Fais-nous grâce ce soir encore, Seigneur. Te demandons pardon. Et puisses-tu faire tomber les écailles de nos yeux, que nous puissions te voir selon que nous venons de chanter. Ce désir qui est en nous, te voir face à face. Chanter pour toujours cette grâce divine, oh Dieu, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Béni soit ton saint nom. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Lire le même passage que mercredi passé. Nous lirons donc dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Épître de Paul aux Romains. Les 6 premiers versets. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce, amen, et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Et nous sommes parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Allez. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelé saint par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons-nous nous asseoir. Ce dont nous avons parlé mercredi, l'obéissance de la foi. Paul avait cette tâche immense, difficile, d'amener les païens à l'obéissance de la foi en un Dieu vivant, de la foi en un Dieu qui est venu en chair dans la chair, en un Dieu qui est mort en tant qu'homme, ressuscité, entre les morts et vivant au milieu de nous, du Dieu véritable. Ce qui n'était pas facile devant toutes les traditions dans lesquelles nous étions en tant que païens, devant tous les dieux, devant toutes les idoles dans lesquelles nous trempions, Paul avait cette tâche difficile de nous faire quitter ces idoles, de nous faire quitter ces dieux-là, n'est-ce pas, pour nous amener au Dieu véritable. Et bien sûr, il n'a pas fait de lui-même, il est venu dans la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit était avec lui partout où il allait. Et chaque fois qu'il devait, travailler quelque part, pour y prêcher, les païens étaient convaincus et souvent, ils n'arrêtaient pas de s'exclamer disant « Les dieux sont descendus parmi nous ». C'est ça, apporter un dieu vivant et non pas un dieu qui m'a été donné par mon aïeul, mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Non, vous savez, le dieu de Jacob, ce n'est pas tellement Abraham qui le lui a apporté. Bien sûr, Abraham lui en a parlé, mais Jacob a fait l'expérience de ce dieu-là. Il a dit, celui-là, c'était le dieu de mon père, Abraham, c'était le dieu de mon père, Isaac. Maintenant, s'il me garde comme eux, ils ont dit qu'il les a gardés, s'il me garde aussi, eh bien, il sera aussi mon Dieu. Amen. C'est ainsi que nous sommes de ceux qui, on nous dit, lorsqu'on doute, on n'essaye pas de convaincre par des paroles de persuasion, on dit seulement, viens et vois, parce que Dieu est vivant. Et l'obéissance de la foi, là, nous avons vu que la foi et l'obéissance, c'est un peu deux sœurs jumelles. Elles sont ensemble, n'est-ce pas? Déjà, depuis Abraham, comme le père de la foi, comme on dit dans Genèse 22, hein, Dieu lui dit ceci. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Amen. Et je multiplierai ta postérité. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui multiplie la postérité. Il n'est pas seulement ce Dieu-là qui frappe toujours. Dieu m'a montré qu'un tel va être frappé. Non, c'est un Dieu qui bénit. Amen. Ces prophéties qui tombent toujours dans le sens de faire peur aux gens. Toi, ainsi dit le Seigneur, tu ne termineras pas l'année. Ainsi dit le Seigneur, ceci va t'arriver. Dieu n'est pas là, n'est pas un Dieu de malheur. Dites amen à ça. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui bénit. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, seront bénies en ta postérité, parce que, pourquoi ? Parce que tu as obéi à ma voix. Et il a obéi par la foi, il a obéi à sa voix, pardon. Hébreux 11 nous dit ceci, au verset 8, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit et partit. » Oui, la foi et l'obéissance, elles sont souvent ensemble. Ce sont deux sœurs qui ne se séparent pas. « Et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Et la foi et l'obéissance nous assure les promesses divines. Elles nous assurent, elles nous garantissent, par exemple, la grande promesse du Saint-Esprit. Par exemple, Actes chapitre 2. C'est la grande promesse des chrétiens. Le Saint-Esprit vous ouvre la porte à tout, le Saint-Esprit vous fait attendre l'enlèvement avec sérénité. Le Saint-Esprit vous fait marcher avec Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Verset 38, d'abord à la question, verset 37, après avoir entendu ce discours, la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. La prédication du Saint-Esprit, c'est une prédication destinée au cœur. Et les cœurs réagissent à cela. Les cœurs, c'est vivant l'évangile. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Là, le baptême au nom de Jésus-Christ, ça demande l'obéissance. Dites amen à ça. Ah, mais moi j'ai reçu mon baptême quand j'étais bébé. Non, ça, c'est pas ça. Ici, il s'agit de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse, car la promesse, elle est pour vous. Amen. Pas seulement pour vous, elle est pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Hein, gloire à Dieu. L'obéissance. Et ce Saint-Esprit, Dieu dit, Pierre dit ceci, ça nous avons lu mercredi, Pierre, acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On reviendra là-dessus. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi témoin. Témoin que Dieu a donné, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Ça, c'est l'obéissance et la foi. Maintenant, à contrario, lorsqu'on vient dans le sens inverse, on rencontre l'incrédulité et la désobéissance. De même que la foi et l'obéissance sont jumelles, on va aussi voir que l'incrédulité et la désobéissance, elles sont jumelles également. Hébreux 3. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Dites amen à ça. Jusqu'à la fin. Ne pas abandonner. Nous avons chanté ici dans les bons et les mauvais jours. Ah. Gardez cette assurance dans les bons jours. Gardez cette assurance dans les mauvais jours. Comme disait le fiston là-bas derrière, à ces jours-là, quand on dit mauvais, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ah, la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent ? Après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et pourtant, ils étaient sortis de l'Égypte par la foi. Mais en chemin, ils se sont révoltés. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Ce n'est plus en Égypte, ils étaient déjà hors de l'Égypte. Ils n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Ils ont perdu cette assurance en chemin. Ils n'ont pas arrêté de murmurer en chemin. Ils n'ont pas arrêté de geindre en chemin. Quand il leur a manqué de l'eau, ils ont geint. Ils ont oublié que le Dieu qui les a sortis de l'Égypte est créateur de l'eau. Dites amen à ça. Que Dieu était capable de sortir l'eau du rocher le plus sec. Vous devez savoir que Dieu est capable, c'est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu peut le faire. Ils avaient oublié que Dieu pouvait leur donner de la viande pendant tout un mois. Il est le Créateur, en plein désert. Ils avaient oublié toutes ces choses. Que Dieu peut guérir de la morsure des serpents après qu'ils aient péché. Dieu pouvait le faire. Amen. Qui ça? C'est Néhémie qui prie dans sa prière, dans Néhémie 9, il dit, il demandait pardon à Dieu, il dit, les ancêtres, nos pères, ils ont mis en oubli tes merveilles. On ne peut pas oublier ce que Dieu a fait en Égypte pour me sortir de l'Égypte, ce que Dieu a fait de grandes choses. Pour me sortir, nous tous, nous avons ce témoignage du moment où on a décidé de partir. Comment est-ce que tu es venu à Christ, frère? Si c'est « j'ai suivi papa », alors là, c'est pas bon. C'est pas suffisant. Il faut dire « un jour, je ». Amen. Il m'a ceci ou cela. J'ai vu que c'était Dieu. Là, vous ne reculerez pas. Ne mettez pas en oubli ce qu'il a fait. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Vous voyez ? La désobéissance. Et ce n'est pas fini. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de quoi ? De leur incrédulité. L'incrédulité et la désobéissance vont de pair. Quand quelqu'un fait, il désobéit, la parole de Dieu. Il fait ce que Dieu lui demande de ne pas faire. Il y a un côté incrédule. Parce que s'il croit vraiment en un Dieu saint, dites amen à ça. Sachant que avec ce Dieu-là, je ne peux pas me cacher. Il me voit. David dit, j'ai essayé même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y est, dans le séjour des morts. Et il est là. Où fuirais-je devant la face de l'Éternel? Il nous voit. Tout ce que nous faisons, il nous voit. Ah, c'est ce qui leur est arrivé du temps de Jérémie, quand ils ont été déportés à Babylone. Pourquoi? Parce que, bon, ils avaient oublié le sabbat. Ils ne respectaient plus le sabbat. Et de toute façon, ils avaient abandonné la parole de Dieu. Dieu, mais pour eux, ce n'était pas grave. Dieu a dit, OK, vous irez, vous allez partir, vous serez pris en captivité. Et un prophète est venu dire aux gens, mais non, ce qui est arrivé, ce n'est pas tellement grave. Dieu va, il est tellement bon, il va pardonner. Je ne sais plus combien d'années Jérémie avait donné. 70 ans, hein? 70 ans de captivité. L'autre a dit, mais non, 70 ans, c'est beaucoup. Dieu ne fera pas ça. Ça, c'est l'incrédulité. Jérémie était prophète depuis son enfance. On voyait bien que Dieu travaillait par lui. Il vient avec la parole, avec le ainsi dit le Seigneur, il dit 70 ans. Mais ils n'y ont pas cru. Mais ça leur a coûté 70 ans. Amen. L'incrédulité. Donc, tu peux intituler cela la désobéissance et l'incrédulité. Je ne vois pas de phrase à donner. Une chose que nous devons savoir, Dieu déteste la désobéissance. Il déteste ça. Quand on est incrédule, on ne peut tout simplement pas lui être agréable. Parce que dans Hébreux 11, il nous est dit, sans la foi, il vous est impossible... Verset 6, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quand on désobéit, vous savez ce qui se passe? Dieu ne nous parle plus. Si vous êtes de ceux qui dites souvent « Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré », le jour où vous désobéissez, ces choses-là, c'est fini. À moins que jusque-là, comme David, jusque-là, il ne s'était pas rendu compte qu'il avait encore commis son péché, ben, Dieu lui a envoyé un prophète pour lui dire « Écoute, j'ai vu ce que tu as fait. » Et finalement, David avait des problèmes. La joie qu'il avait, je suis dans la joie quand on me dit dans, allons à la maison, la joie, il ne l'avait plus. Il a commencé à pleurer, Seigneur, redonne-moi la joie du salut. Alors, quand on a désobéi à la parole de Dieu, Dieu ne nous parle plus. Je disais, David était, on l'avait amené chez Saül parce qu'il jouait très bien la harpe, mais après son péché, après sa désobéissance même, si je peux dire ainsi, David, il ne jouait plus sa harpe. Les Juifs, lorsqu'ils ont été déportés en captivité à Babylone, ils chantaient bien. On aimait bien les cantiques de Sion. Les gens aimaient bien les cantiques de Sion. Vous savez, quand j'avais cru, les bien-aimés, les frères, surtout les sœurs, avaient pris à un moment donné, il y avait une petite période comme ça, dans le tram. Les frères, les sœurs chantaient. Ils chantaient des cantiques dans le tram. Et ça chantait tellement bien que parfois, il y a des personnes qui aimaient bien ces cantiques, ils venaient, ils proposaient de l'argent. Mais non, on ne chante pas pour l'argent. On chante parce qu'on est content, on est heureux. Bon, vous voyez. Et les Babyloniens, ils avaient certainement entendu parler des cantiques de Sion. C'est pourquoi ils sont arrivés, ils les ont vus là. Mais ce sont ceux-là qui chantaient. Ils étaient captifs. Une fois captifs, c'est fini. L'onction de chanter est terminée. Satan vous a eu. Ils ont pris leur harpe, ils ont accroché ça là, aux arbres, au sol. Les Babyloniens sont venus. Écoutez, chantez-nous un peu ces cantiques-là. Hein, ces beaux cantiques. Psaume 133. Pardon, 137. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions au lieu de chanter, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Hein? Vous qui disiez que vous êtes toujours joyeux, avançons-nous toujours joyeux. Eh bien, chantez. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et pense, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Quand Dieu en arrive là, on est fichu. Dieu ne vous répond plus si vous êtes dans la désobéissance. Saül était un croyant. Ce n'était pas un incrédule. C'était un croyant. Dieu lui dit, écoute, je vais te donner la victoire sur tes ennemis. Tu dévoueras tout par interdit. C'est le ainsi dit le Seigneur. Saül, au lieu de s'exécuter, il fait les choses autrement. 1 Samuel 15. D'abord, on va aller dans 1 Samuel 15. Verset 18. Vous pouvez lire l'histoire, hein? C'est très intéressant, mais on n'a pas le temps. Verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Dieu dit, je ne veux plus les voir devant moi. Toi, extermine-les. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Amen. Alors, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin alors que je t'ai dit de dévouer ça par interdit? Tu as pris un butin chez eux et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Ah, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, il est là, je t'ai dit de l'exterminer. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais j'ai gardé le roi. C'est le pire qu'il a gardé. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, ils étaient tellement beaux, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Est-ce que Dieu vous a demandé ça? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Ça veut dire que l'Éternel trouve du plaisir dans l'obéissance à sa voix. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Les devins, les faux prophètes. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, eh bien, il te rejette aussi comme roi. C'était quelqu'un à qui Dieu parlait en tant que roi en Israël. Dieu lui envoyait un prophète. Le prophète venait lui donner là, ainsi dit le Seigneur. C'était quelqu'un, certainement, quand il se mettait en prière, Dieu lui répondait dans sa prière. C'était quelqu'un qui recevait l'onction quand il devait chanter. C'était quelqu'un à qui Dieu donnait la victoire quand il devait aller se battre. Dieu lui donnait tout cela. Mais maintenant qu'il a désobéi, Dieu a coupé court. Il ne le fait peut-être pas juste après, mais s'il peut laisser passer un petit moment, il va finir par le faire, par vous faire comprendre. Alors, celui-là à qui Dieu parlait, eh bien, Dieu ne parle plus. Il ne lui envoie même plus Samuel. Samuel est mort d'ailleurs, à un moment donné, il était mort. On arrive dans 1 Samuel 28. Samuel est mort. Maintenant, il était là. Il devait se battre contre des Philistins. C'est les pires ennemis d'Israël. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. C'était ceux qui s'étaient échappés de la défaite contre Goliath, hein, de ces Philistins-là. Askish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort. Ça va? Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. C'était un croyant. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Il s'est certainement dit, c'est le moment de prier. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. Amen. Et l'Éternel ne lui répondit point. ni par des songes. Les songeurs, là. Il avait tellement l'habitude de raconter ses songes. J'ai eu un songe. Dieu me bénit. J'ai eu des songes. Il avait plein de songes. Eh bien, plus. Fini. Dieu ne lui parlait plus par les songes. Ni par l'urim. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est que l'urim. C'est la Bible. N'est-ce pas? L'urim, où dans notre méditation, parfois, souvent, quand on est chez nous, nous lisons, ou bien même dans nos conversations, hein, lorsque nous plongeons nos regards dans la Bible, Dieu nous parle. Ah, j'ai reçu telle parole de Dieu. Dieu m'a parlé. J'ai la réponse à ma question. J'ai la solution à mon problème. Eh bien, fini. Il allait consulter le souverain sacrificateur qui portait le pectoral avec l'urim et thummim. Eh bien, ça ne réagissait pas. Pourquoi ? À cause de la désobéissance. Ni par l'urim, et encore moins par les prophètes. Aucun prophète. Fini. Même dans les prédications, fini. Parce que le prédicateur, quand il prêche, il prophétise en quelque sorte. Eh bien, c'est fini. Il va à l'assemblée, il ne reçoit plus rien. Il va dormir, il ne voit plus rien. Amen. Il va chez le pasteur, chez le sacrificateur, eh bien, il n'a rien. L'urim et thummim refusent de s'allumer. Quelles conditions ? Alors, vous savez dans quoi il va sombrer ? La sorcellerie. Eh bien, puisque Dieu ne répond pas, verset 7, « Esaü dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. » Quand un soi-disant croyant en arrive là, il a un problème d'obéissance à la parole de Dieu. Quand un croyant, quelqu'un qui se dit croyant, en arrive à la superstition, il y a un problème. C'est que quelque part, il se sent loin de Dieu. Il voit un chat noir, il dit, aïe, un jour de malchance. Un vendredi 13, il n'ose pas sortir. Amen. Parce qu'aujourd'hui, déjà, et Satan s'y prend bien. Hein, à la radio, si vous écoutez les infos à la radio, même pas les infos, même les émissions, n'importe quelle émission, les animateurs des émissions, ils vous rappellent, nous sommes vendredi 13. Amen. Gloire à Dieu. Si vous ne faites pas attention, vous tombez dedans. Regardez-moi. Je connais un sorcier là-bas. On lui a dit, on en connaît. Il a interdit les sorciers. Ben, mais maintenant, c'est qu'il a lui-même interdit, il va aller voir. Ses serviteurs lui disent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Mais tu les as punis. Tu les as interdits. Alors Saül se déguisa et man, c'est là, il va porter une casquette, je n'en sais rien moi, il va porter une cagoule, ou ah oui, avec les masques qui protègent, n'est-ce pas, pour la Covid, hein, c'est le temps de la Covid, on ne vous reconnaît plus. Il va en dehors, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. » Comment est-ce qu'il en est arrivé là, la désobéissance? La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie ?» pour me faire mourir. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant. Mais alors pourquoi tu ne le consultes pas? ne t'arrivera point de mal pour cela. Continuez l'histoire, si vous voulez. En désobéissance. Dieu ne répond plus. Quand vous avez désobéi sciemment à la parole de Dieu, à un ordre divin, c'est la chose qui vous attend. Dieu ne vous répondra plus. Vous, si vous aviez l'habitude de prophétiser, vous avez commencé par prophétiser des mensonges pour que les autres ne se rendent pas compte qu'en fait, vous avez rétrogradé. Toute désobéissance a une rétribution. Toute. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que Dieu dit. Hébreux chapitre 2. Moi qui le dis. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Amen. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ces choses-là n'y sont plus. Les miracles, hein, moi, Dieu entend mes prières, bien là, Dieu ne les entend plus. Et Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'y a pas de privilégiés. Qui que vous soyez, prédicateur ou non prédicateur, si vous avez désobéi à un moment donné, Dieu ne vous répondra plus. Maintenant, si vous êtes prédicateur et Dieu continue à inspirer des prédications, ce n'est certainement pas pour vous. C'est pour les fidèles qui viendront écouter. Et une fois la réunion terminée, le prédicateur va oublier ce qu'il a prêché. Et t'amène à ça. L'obéissance, on l'a vu mercredi, apporte le salut. La désobéissance apporte la perdition. Hébreux chapitre 5. Ça, c'est pour le salut. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient, verset 5, il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Dieu exige l'obéissance. L'obéissance, on la doit à quelqu'un qui peut nous commander, qui a autorité sur nous, qui peut nous donner des ordres, une tâche à effectuer, quelque chose à faire, il nous donne cet ordre-là. Et ou nous interdire de faire certaines choses, amen, nous demander de ne pas aller à tel endroit, l'obéissance, c'est de faire ce qui nous est demandé de faire. Et pour ce qui est des autorités que nous avons, Dieu a placé des autorités quasi à tous les niveaux. Dieu exige l'obéissance aux autorités que lui, il a établies. Dans les familles, d'abord. Dans les familles, il nous est dit, le mari est le chef de la femme. Ça va? Il y a un ordre à respecter. Quand vous trouvez dans une maison où c'est l'inverse, c'est la femme qui commande, il y a un problème. C'est ainsi que l'apôtre dit dans Éphésiens 5, que la femme soit soumise. Maintenant, il y en a qui utilisent cette soumission-là autrement. On va y arriver. Dans Éphésiens 6, c'est Dieu qui a établi, hein, il ne faut pas discuter. Ah, pourquoi c'est lui qui doit être le chef? C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Dites amen à ça. Les frères devraient le dire. Hein. Après ça, vous allez m'accuser de toujours prêcher en faveur des sœurs. Verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents. Dites amen à ça. Vous voyez la suite? Selon le Seigneur. Ça va? Obéissez à vos parents. Ce papa ou cette maman, dictateur ou dictatrice qui vient avec des ordres, d'accord, c'est mon papa, mais si l'ordre qu'il me donne n'est pas selon le Seigneur, je n'obéis pas au papa, mais je dois obéir selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ça veut dire que tu seras béni si tu honores ton père et ta mère. Afin, si tu veux être heureux, si tu veux du bonheur dans ta vie, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tout à l'heure, en venant, on parlait de certaines personnes. Celle-là est déjà décédée. Enfin, je me suis dit, mais finalement, cette vie, elle est courte. Elle est courte. Et à peine, on a l'impression, c'était hier, je voyais ces personnes-là, mais les personnes n'y sont plus. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Pas autrement, selon le Seigneur. Quand le Seigneur dit « contraignez-les », cela ne veut pas dire aller prendre un énorme bâton et commencer à taper dessus en disant « crois, crois, crois ». Non. Serviteur, si vous êtes serviteur, vous avez des maîtres, vous avez prié pour qu'on vous donne du boulot, Dieu vous en a donné un, hein, vous avez un patron, une patronne. Serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement quand ils sont là, sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Il t'amène à ça. Ça, c'est l'obéissance dans les familles. Il faut que l'ordre soit respecté dans les familles. Un enfant qui vient, qui terrorise tout le monde dans la maison, ce n'est pas un bon enfant, ça. Dieu exige l'obéissance aux autorités qu'il a établies dans l'Église. Dites amen à ça. Ne les méprisez pas. Si c'est Dieu qui les a établis. Si ce n'est pas de Dieu, c'est autre chose. Mais si vous avez reconnu qu'ils sont de Dieu, on ne vous demande pas de faire des courbettes devant eux. Non. Mais obéissez. Et n'oubliez jamais, quand on vous demande d'obéir, obéissez à votre pasteur si vous voulez, mais toujours selon le Seigneur. Amen. Toujours. Si le pasteur commence à dévier, n'obéissez plus. On va voir ça. Hébreux 13. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Dites amen à ça. Vous savez, le fait de veiller sur les âmes, ça pousse souvent à dire des choses qui ne plaisent pas, à demander aux gens ou à prendre des mesures qui ne plaisent pas. Mais vérifiez si ce sont des mesures selon le Seigneur. Amen. Parce que pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Je ne voudrais pas arriver là-bas que le Seigneur me dise « Tu as laissé faire ». Dites amen à ça. Qu'il en soit ainsi. Mais je ne viendrai pas non plus avec des sanctions ou des mesures qui ne sont pas bibliques. Elles doivent être bibliques. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, ça, il faut regarder chez Dieu. Moi, je n'y suis pour rien. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Parce que parfois, à un certain moment, ça finit par pomper. Frère, mais la Bible dit que c'est comme ça. Ah, mais non, ça finit par pomper. Non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si votre pasteur passe son temps à gémir, ça ne vous est plus aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Ça, c'est les autorités dans l'Église. Dans le pays, il y a mon frère là-bas derrière qui aime bien me faire remarquer ça souvent. Ce sont des autorités que Dieu a établies. Pilate, n'est-ce pas? Jésus lui a dit, tu n'aurais aucune autorité. Tu n'aurais aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné du ciel. Si Pilate était ce qu'il était, c'était parce que cela lui était venu du ciel. N'est-ce pas? Romains 13. Je connais un président qui, en son temps, avait lu ça au prêtre. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Hein? C'est... ces excellences-là, leurs excellences. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. J'en connais un qui risque de me dire, tu vois, tu l'as lu. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. T'en fais pas, frère, je te rabattrai plus les oreilles. Je n'ai pas dit mon dernier mot. On va terminer. Cette autorité que Dieu donne, elle n'est pas à discuter. C'est l'autorité que Dieu a établie. Maintenant, si ces autorités-là, parents, conducteurs d'église, autorités du pays, sont en conflit avec la parole de Dieu, première chose à faire, c'est d'obéir à Dieu. Vous obéissez à Dieu. Actes chapitre 4. Verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas, donc l'évangile au nom de Jésus-Christ, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur, ça c'est le Sanhédrin, les autorités spirituelles, enfin de l'Église, défendons-leur avec menace. Quand ça devient une défense avec menace, sachez bien, ce n'est pas de Dieu. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Amen. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Et il était boiteux de naissance. C'est l'homme qui était à la porte appelé la belle. C'était sa guérison. Allez, terminons. Acte 5. On a déjà lu, mais on peut le relire. Donc, encore une fois, la même interdiction. Verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Quand on vous dit, « Femmes, soyez soumises », c'est une soumission selon le Seigneur. Quand on dit, Marie, vous êtes le chef de la maison, vous êtes le chef de la femme, c'est chef selon le Seigneur. Jésus-Christ est mon chef. Mais il ne me tape jamais dessus. Hein. Amen. Hein? Ah, c'est ça, oui. Il ne m'envoie jamais au coin. Quoique bon, ça passe encore. Hé, il est mon chef. Quand j'ai désobéi, il sait comment faire. Mon frère Terence n'est pas là. Il a un fiston qui joue au football. Je lui ai raconté une histoire. Je lui ai dit, tu sais, je ne sais plus pourquoi je disais, il y a, quand je suivais mon fils au football, il y a un gamin dans une équipe, il aimait bien dribbler. Or, le football est un jeu d'équipe. Il faut jouer en équipe. Il aimait bien dribbler. Mais passe la balle à l'autre, il ne passait pas. Il passait pas. Bon, il passait quand il était fatigué, essoufflé, alors là, il pouvait passer. Mais il aimait bien dribbler. Alors, un jour, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux autres d'arrêter de jouer, de ne plus jouer. Maintenant, il a joué tout seul. Et il a commencé à jouer tout seul contre 8. C'est quand ils étaient encore petits, ils jouaient à 8 contre 8. Seul contre 8. Mais il a pleuré. Hein. Il a fini par pleurer, à se retrouver seul avec le ballon. Les autres ne le suivaient plus. Ça, c'est parce que l'entraîneur avait dit... faut faire. Maintenant, l'entraîneur Jésus-Christ, quand il nous dit « Faites les choses comme ça, vous ne voulez pas, vous voulez faire ça à votre façon. » Il vous laisse faire ça à votre façon. Il y a deux manières d'apprendre. Amen. Soit vous écoutez, soit vous expérimentez. Que Dieu vous bénisse. Prions au Seigneur. Oh, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, venons à toi ce soir, reconnaissant que, il est vrai, nous ne sommes pas toujours obéissants. C'est que tu nous demandes, dans ta parole, soit de faire, soit de ne pas faire. Bien souvent, nous flanchons. Et nous savons que nous flanchons. Parfois, nous savons que c'est mal. Mais c'est mal de ne pas le faire. Et nous ne le faisons pas. C'est mal de le faire, mais nous le faisons quand même. Nous le savons. Mais, Père Céleste, tu es celui qui nous tient, qui est le Créateur, qui nous forme. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Tu peux former notre cœur de manière à ce que nous ayons ce cœur obéissant, ce cœur sensible à ta parole, à tes ordres, à tes commandements. Oh Dieu, que nous puissions suivre tes ordonnances, tes conseils. Oh Père, tout ce que tu nous diras, que nous puissions le faire, car toutes ces choses, c'est pour notre bonheur. Oh, donne-nous d'obéir aux autorités que tu as établies. Oh, et nous voyons, Seigneur oh Dieu, tu aimes tellement cela, que cela est souvent suivi de bénédictions. Ainsi que nous l'avons vu, la foi et l'obéissance assurent les bénédictions de ta part. Oh Dieu, donne-nous la foi, augmente-nous la foi. Donne-nous cette obéissance, l'obéissance à ta parole, l'obéissance aux autorités. Et que tu sois béni, sois loué, toutes choses. Pour cette instruction que tu nous as conseillée aujourd'hui, que tu nous as donnée aujourd'hui. Que tu nous raccompagnes également dans nos maisons, sois avec nous sur le chemin. Que tu bénisses tes enfants. Si tu tardes à venir, nous attendons à nous retrouver encore dimanche, ensemble. Afin d'écouter ta parole, afin de te louer, de t'adorer. Afin de savoir comment te servir d'une manière qui te soit agréable. Toi le Maître, c'est toi le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.